qui remplit les cieux. Adonai.
Nous te bénissons, toi qui es le Père de ceux qui ont le Fils en eux. De par notre manière d'accepter Jésus-Christ, nous sommes devenus tes enfants. La Bible dit à tous ceux qui l'ont crié, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Père, merci pour ces privilèges que nous avons auprès de toi. Ceux de l'ancienne alliance n'ont pas eu ce droit. Mais nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous avons eu ce droit qui est un véritable privilège. Celui d'être appelé enfant de Dieu. Fils héritier, co-héritier avec Christ. Et en tant que tes fils, Père, ce matin, tu veux nous communiquer ta parole. Oui, fais-nous du bien au travers d'elle. En elle était la vie, dit la Bible, et cette vie était la lumière du monde. Et cette lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point réussi. Mais à nous, cette grâce a été faite. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom par les acclamations. Et disons que la gloire, l'honneur et la magnificence soient à toi et à toi, au nom de Jésus. Amen. Tu étais tellement plongé dans l'adoration ce matin. Est-ce que tu n'as pas eu vraiment le temps de vérifier ton voisin de gauche, de droite? Pourquoi pas lui serrer la main, lui dire bonjour, lui dire une bonne parole, lui souhaiter la bienvenue dans la présence de l'Éternel? Pourquoi pas le faire à la manière des anciens et des diacres? Bouger un peu, bouger. Tu étais tellement concentré. Essaye un peu de bouger. Essaye un peu de bouger, 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 bouger. Pour la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ces dimanches matin. Nous bénissons Dieu pour tout ce qui s'était passé la semaine passée. Tout ce que Dieu a fait avec nous, avec l'apôtre Roland Dallo. Et nous rappelons que l'Église a déjà repris ses programmes hebdomadaire d'une manière habituelle. Donc mardi nous sommes là, c'est mardi nous commençons un nouvel enseignement avec la pastorine, comme a dit papa Richard, avec pastorine Becky. Et le jeudi nous sommes là dans nos moments de prière, jeudi et toko nous venons en famille. Et le dimanche comme celui-ci nous sommes également là. Et qu'il me soit permis avant d'entrer dans le message d'accueillir une personne qui nous est très chère. Il fait partie des premiers soldats ici à Philadelphie, Beaumont. Donc, quand l'église n'était encore une cellule, il était là. Quand on a commencé à trouver un endroit, il était là. Quand on était à l'amicale sportive, il était là. Arrivé au signe, là, il était là. Et quelques temps après, pour des raisons professionnelles, lui et sa femme étaient partis à Matadi. Et Dieu a fait grâce, ils sont retournés ici. Je cite Papa Ogi Bewa, que nous pouvons acclamer. Where is Mama Blandine? Mama Blandine. Papa Bewa, Mama Blandine Azawapi. Ah, ok, ok. Donc, déménagement et tout comme ça. Donc, Papa Bewa, c'est l'un de nos premiers soldats. Donc, quand je le vois, persévérance, je vois la bonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous amène encore très loin. Que Dieu n'oublie pas tous ces sacrifices que vous n'avez cessé de faire pour son Église. Amen. Ce matin, vous avez votre Bible. Je vous prie de pouvoir l'ouvrir dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous sommes au quatrième chapitre et nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Si cela ne vous dérange pas. There is no one else like you. Est-ce que les claviers peuvent lire, prêcher ensemble avec moi? Et il a donné le saint comme apôtre, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur rise dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La grande question cette semaine, c'était celle de me demander, Seigneur, quel message apporter à ton peuple après toute cette semaine que nous avons connue avec l'apôtre Roland Tarlo. Quel message apporter? Quelle direction prendre? Et la question était tellement profonde, je bénis Dieu, de m'avoir orienté. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons ensemble commencer cette petite nouvelle série d'enseignements qui est intitulée « La vérité dans la charité ». Si ça ne te dérange pas, tu peux le répéter après moi. « La vérité dans la charité ». La vérité dans la charité, ça touche tout petit peu les notions de rhétorique. Ça touche un peu la poésie parce que ça rime, la charité et la vérité. Mais pourquoi cela? Pour que nous puissions retenir cela très bien. La vérité dans la charité, c'est ça ce que l'apôtre Paul recommande aux Éphésiens dans le 15e chapitre, plutôt 15e verset de Éphésiens 14. Il dit, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le Christ, à celui qui est le chef, à savoir Christ. Donc cet épître, Paul l'a adressé aux Éphésiens. Quand est-ce que Paul a écrit cet épître? C'était aux alentours des années 60 et 63. Quand Paul adressait cet épître, il était encore en prison. Raison pour laquelle cet épître est qualifié d'épître de captivité. Paul était encore en prison quand il écrivait cet épître. Et dans la liste des épîtres de captivité, il y a l'épître de Paul à Philémon, il y a l'épître de Paul aux Colossiens et aussi l'épître de Paul aux Philippiens. Et dans cette liste, Éphésiens également fait mention. Le thème central de cet épître, quand Paul l'écrivait, déjà vous devez savoir que chaque livre de la Bible a un thème. Même déjà la Bible elle-même dans son entièreté a un thème. Le thème central de la Bible, c'est Jésus-Christ. Et chaque livre a un thème. Et le thème de l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est Église, épouse, de Christ. C'est dans cet épître que l'apôtre Paul donne le mystère caché de tout temps. C'est dans cet épître que l'apôtre Paul essaie un peu de nous expliquer comment est l'Église. Et c'est dans cet épître que l'apôtre Paul est en train de donner les leçons qu'il faut pour équiper les chrétiens qui font partie de l'Église. Ici, dans cet épître, Paul présente une vision équilibrée de l'Église et aussi son importance dans les dieux. Parce que l'Église revêt une importance très capitale dans le plan. Et quand nous regardons l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est une épître à caractère doctrinal. Parce qu'il y a des fondements doctrinaux qui sont dans cette épître. La plus grande partie de l'épître aux Éphésiens est consacrée aux doctrines. L'apôtre Paul parle de la doctrine. Et le reste de la partie de cette épître, l'apôtre Paul a consacré cela pour dépeindre notre position en Christ. Et c'est ainsi que dans cet épître, Paul parle plus de nous en Christ. Il dépeint notre position en Christ. Et pas seulement ça, l'apôtre Paul, vers la fin, nous invite encore à pouvoir réunir toutes les conditions pour jouir de notre statut d'enfant des dieux. Et si vous êtes un vrai lecteur de la Bible, vous allez vous rendre compte que il y a une destination très particulière liée à l'épître de Paul aux Éphésiens. Dans cet épître, l'apôtre Paul martèle sur la maturation des chrétiens. Son grand souci, c'est de voir des chrétiens devenir matures. Son grand souci, c'est de les voir croître spirituellement. Donc Paul a destiné cet épître à tous ceux qui aspirent à la maturité. Vous voulez grandir dans la foi, l'épître de Paul aux Éphésiens est là. Vous voulez être une chrétienne ou un chrétien solide, l'épître de Paul aux Éphésiens est là. Et dans cet épître, bien aimé, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de disciplines nécessaires pour devenir un véritable enfant de Dieu. Et quand nous lisons, par exemple, le 15e verset que nous avions vu là, l'apôtre Paul confirme encore cette nécessité de la maturité chrétienne. Il dit, afin que nous croissions à tous égards, en celui qui est le chef, à savoir Christ. Donc son souci, c'est de voir les chrétiens croître à tous égards. Son souci, c'est de voir les chrétiens atteindre la stature parfaite de Christ. C'est ça le souci de l'apôtre Paul.
Et pour parvenir à cette croissance, Paul nous présente également toujours dans la même épître ce que Dieu fait pour aider l'Église à croître. Et dans les passages que nous avons lus ensemble, Paul dit, Dieu a donné, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme prophètes. Et il dit pour le perfectionnement, pour la croissance. Donc Christ a fait des dons à l'Église pour que l'Église puisse croître. Donc le souci de Dieu, c'est de te voir croître spirituellement. Et je prie ce matin que la croissance soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Dieu a donné à l'Église tout ce qu'il faut. Comme Pierre le dira dans son épître, tout ce qui contribue à la piété, Dieu l'a mis à notre disposition. Et ici, Dieu a donné à son Église les dons. Ces dons sont des pasteurs, les apôtres, évangélistes, les prophètes ou docteurs. Ici, il n'est pas question de dons spirituels qui sont des grâces faites à l'Église, aux chrétiens. Mais ici, il est question des personnes qui elles-mêmes sont des dons que Dieu a fait à l'Église pour la croissance des fidèles, pour le perfectionnement de saints en vie de l'œuvre du ministère. Et dans ces soucis-là, Dieu a fourni aussi les principes pratiques sur la vie chrétienne. Il donne les principes. Il va même dans le foyer, au sein d'un foyer, pour donner les principes, pour donner des instructions. Quand il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, femmes, soyez soumises », on est toujours dans la même épître. Et dans cette épître, l'apôtre Paul nous invite au perfectionnement. Il nous invite à atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ, à éviter d'être des chrétiens flottants à tout vent de doctrine. Parce que quand on est encore enfant, on va être flottant à tout vent de doctrine par la tromperie de ce moment de séduction. Paul dit non, il faut que vous croissiez à tout égards. Raison pour laquelle il a donné tous ses dons à l'Église, croître à tous égards. Donc la destination finale de cette épître, c'est la croissance. Ce que Dieu fait dans cette épître à propos de son Église, c'est la croissance. Afin que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, à savoir Christ. Et la croissance en question doit s'effectuer à tous égards, dans tous les domaines. Et cette croissance reste un processus naturel, normal de la vie. Et aussi dans la vie, pour dire que chaque être, chaque chose qui a la vie est appelée à croître. Quand nous disons avoir la vie chrétienne, cette vie chrétienne est appelée à croître. Et Christ tient à cette maturité dans son Église. L'Église, vous savez, apparaît être une organisation. L'Église est un organisme. Ça veut dire que l'Église a la vie en elle-même. Et elle est également aussi appelée à croître. Cette Église qui a commencé le jour de la Pentecôte, aujourd'hui, s'est propagée à travers le monde parce qu'elle croit. L'Église est appelée à croître. Et pour sa croissance, comme je dis, Dieu a mis en place le moyen qu'il faut pour aider l'Église à grandir. Et non seulement ça, Dieu aussi a établi le but de cette croissance. Et ensuite, Dieu présente aussi les signes qui prouvent que l'Église a grandi. Quand nous parlons de l'Église, ne voyez pas les bâtiments. Quand nous parlons de l'Église, voyons d'abord toi. C'est nous qui formons l'Église. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, ce ne sont pas les instruments. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est toi. Et quels sont les moyens que Dieu utilise pour faire grandir son Église? L'Église dit, il est monté dans les hauteurs. Il a émené des captives et il a fait des dons aux hommes. Les moyens que Dieu utilise, ce sont les dons qu'il a fait à l'Église. Il a émené des captifs et il a donné pour que l'Église croître. Et le but de cette croissance, Dieu veut que nous devenions des adultes spirituels. Il veut nous voir grandir dans la foi. Souvent anormal, quand Dieu nous regarde toujours enfant, c'est anormal aux yeux de Dieu. Imaginez-vous ces parents qui ont mis au monde un enfant. 5 ans après, l'enfant a toujours la taille avec laquelle il était sorti du ventre de sa mère. C'est qu'il y a un problème. Tout enfant qui ne grandit pas devient un sujet d'inquiétude pour ses parents. Les parents mettent tout à la disposition de l'enfant pour le voir grandir. Et la même chose aussi avec l'église. À la disposition de laquelle Dieu a tout mis pour que l'église puisse grandir. Et la Bible dit jusqu'à ce que nous sommes tous parvenus à l'unité de la foi. C'est ça le but de la croissance. Que nous arrivions tous à la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. Et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et la croissance, bien aimé, on sait le voir au travers des signes. À part les moyens qu'il utilise, à part le but de la croissance, il y a aussi les signes de la croissance. Les indices partant duquel nous pouvons savoir qu'une église a grandi, une personne a grandi dans la foi. Et parmi les signes que l'apôtre Paul dépeint dans ce passage, il parle de là, de cesser d'être enfant emporté à tout vent des doctrines. Donc l'instabilité fait partie des signes de l'immaturité. Et contrairement, la stabilité fait partie des signes de la maturité. Un des signes de la croissance dans la vie chrétienne, c'est la stabilité. Quand un chrétien est stable, on se voit la croissance dans la vie de ces chrétiens. La stabilité. Il n'est pas emporté à tout fond de doctrine. Il n'est pas emporté par la tromperie des hommes au moyen de séduction. Non. La stabilité. La Bible dit, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout fond de doctrine. Que ne voyons-nous pas ces jours-ci? Des doctrines contraires, des enseignements qui s'opposent les uns aux autres. Et ça crée la perturbation dans la tête des chrétiens. Et Paul, en écrivant cet épître aux Éphésiens, il visait une certaine stabilité dans leur marche avec Christ. Et dans des temps comme ceci, nous avons aussi besoin de cette stabilité. Être un chrétien stable, un chrétien posé, calme, à qui l'on ne fait pas assez de reproches, qui sait se conduire, qui sait ce que Dieu attend de lui, qui sait obéir sans être contraint à la parole de l'Éternel. Et ces signes, la version sémère les montre encore très bien. La version sémère dit ceci, de cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par des vagues, emportés ça et là par les vents de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habillés à entraîner les autres dans leur erreur. Là, c'est sémère qui donne cette définition. On ne sera pas ballotté par toute vague. Emporter ça et là. On doit avoir en nous une certaine stabilité. Un chrétien calme qui sait discerner. C'est ça les signes. Et ce qui crée souvent la crise de la maturité. Parmi les signes qui prouvent la crise de la maturité, voulais-je dire, les chrétiens stagnent, manquent de croissance. La personne ne sait pas avancer. La personne fait du surplace. Depuis qu'il a reçu Christ, il est toujours là. Dans ce mauvais comportement-là, il est toujours là. Toujours une occasion de chute pour les autres. Toujours une pierre d'achoppement pour les autres. Il ne sait pas progresser. Le chrétien stagnant, il tourne en rond. Et l'autre chose qu'on voit auprès des personnes qui ne connaissent pas la croissance, c'est la décroissance. Qui ne connaît pas la croissance subit la décroissance. La personne ne sait pas avancer. Ne pas avancer dans la foi chrétienne, c'est reculer. La personne régresse spirituellement. On les appelle des rétrogrades. Elle ne veut pas aller de l'avant, cette personne. Voilà des choses qui créent la crise de la croissance. Et de telles personnes vont devenir des sujets d'obstacles pour les autres, des pierres d'achoppement, des moyens d'occasion de chute pour plusieurs. Parce qu'un chrétien qui n'a pas atteint la maturité serait un vrai problème pour les corps de Christ. De par son comportement. Et souvent cette décroissance amène la frustration auprès de ces chrétiens. La personne si on ne veut pas croître, elle se verra toujours frustrée. Et cette frustration-là va même s'exprimer par son désir d'en vouloir à Dieu. Et de devenir aussi une source de problèmes pour les autres. En croyant que ce sont les autres qui sont responsables de sa déchéance spirituelle. Et cette crise, comme a dit l'apôtre, ça crée aussi la jalousie. Certaines personnes deviennent amères, méprisantes, jalouses des uns des autres. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas connu la croissance. Et pour aider maintenant les chrétiens à expérimenter cette croissance, l'apôtre Paul nous présente ces deux éléments, la vérité et la charité. Il dit « professons la vérité afin que nous croissions ». C'est-à-dire quand nous professons la vérité, nous allons croître. Quand nous déclarons la vérité, quand nous marchons dans la vérité, nous allons croître. Donc Paul, en parlant de la vérité dans la charité, il présente les éléments déclencheurs de la croissance. Quand la vérité est avec nous, elle entraînera la croissance. Quand on est vrai, c'est déjà le point de départ pour la croissance. Et c'est ça le souci de l'apôtre Paul. Et dans son exhortation aux Philippiens, aux Éphésiens plutôt, il présente ces deux choses. Ce que nous devons faire, professer la vérité. Et comment le faire dans la charité. C'est des choses qui doivent nous accompagner. La vérité que je dois professer et dans la charité que cela doit être fait. Donc Paul présente ce que nous devons faire et la manière de faire souvent, de le faire. Souvent nous désirons croître, mais nous nous trouvons un peu coincés par rapport à cela. Nous avons pris avancer parce que la vérité n'est point en nous. Et cela crée automatiquement l'absence de la charité. La vérité et la charité. Que cachent ces démons? Commençons avec la vérité. La vérité. La vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai. À la vérité est attaché les objectifs, les adjectifs comme vraiment. Véritable. C'est attaché à ce qui est vrai. Et c'est ça ce que Dieu veut de nous. Que nous soyons la vraie version de nous-mêmes. Être vrai. Il dit, professons la vérité. Nous devons être authentiques. Par là, Paul nous lance une invitation pour ne pas être des chrétiens cosmétiques. Des chrétiens qui se cachent derrière le make-up. Mais des chrétiens authentiques. Quand on te regarde, celui que tu es, et réellement tu l'es. Être des vrais nous. Et Paul dit, c'est ça l'élément déclencheur de la croissance. Être toi. Pas paraître, mais être réellement ce que l'on est. Ce n'est pas donner une fausse image à l'église alors que dans la société, c'est une autre image que tu présentes. Être vrai. Et cette dimension d'être vrai, c'est ce que Pierre, à un moment donné, avait perdu. Après l'arrestation de Christ, cette femme s'approche de Pierre, lui pose la question de savoir, toi aussi, tu es l'un de ses disciples. Pierre a cessé d'être vrai en ce moment-là. Il dit non, je ne le suis pas. Il a perdu cette identité. Il dit à la femme, je ne le suis pas. À trois reprises, Pierre a perdu ses statuts d'être vrai. Et Jésus le savait déjà. Voilà pourquoi il avait averti Pierre. Dans Jean 13, quand il disait, je te l'ai dit Pierre, le coq ne chantera pas que tu m'aies régné trois fois. Il y a aussi beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui cessent d'être vrais. Face aux difficultés, face aux épreuves, face aux tentations. Ils cachent leurs identités. on ne sait plus le reconnaître. Pierre se cache. Il dit non. Je ne suis plus celui que j'étais là. Ce n'est pas moi. La femme, non, la femme là aussi a continué à insister. Parce qu'elle connaissait la vraie identité de Pierre. Mais Pierre a régné Christ. Que des chrétiens aujourd'hui continuent à régner Christ. Face aux épreuves, face aux menaces, face à cette bénédiction qui n'arrive pas. Combien de chrétiens aujourd'hui aiment utiliser les raccourcis? Dans les raccourcis, il y a les étapes que tu sautes maintenant, mais qui, avec le temps, finiront par te rattraper. Ça finira par te rattraper. Beaucoup cessent d'être vrais. Et cette vérité, Christ l'a trouvée auprès d'une femme. C'est la femme qui était venue puiser de l'eau près d'un puits appelé Jichar, le puits que Jacob avait laissé à sa postérité. Dans son entrevue avec cette femme, Jésus arrivera à lui poser la question ou à lui faire une demande. Il lui dit, va, appelle ton mari. La femme dira, je n'ai pas de mari. Et la réaction de Christ, Christ lui dira, tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Il dit, en cela, tu as dit vrai. Christ lui dit, en cela, tu as dit vrai. Christ a trouvé cette vérité dans le cœur de cette femme. En cela, tu as dit vrai. Sommes-nous vrais ou sommes-nous faux? À cette femme, Christ a dit, en cela, femme, tu as dit vrai. Tu as reconnu que celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Tu as reconnu que ce que tu as ne t'appartient pas. Tu as reconnu que tu vis dans le péché. Tu as reconnu que ta manière ne plaît pas à Dieu. En cela, tu as dit vrai. Et c'était le début d'une nouvelle expérience pour cette femme. Et toujours dans le but d'insister sur cela, la vérité dans la charité, Christ lui-même ne cessait de dire à maintes reprises, en vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. Et plus tard, il apprendra toujours à cette femme, le Père cherche ce qu'il adore, en esprit et en vérité. Et souvent, cette vérité est en voie de disparition au sein de nos églises. La question que l'on peut se poser, sommes-nous dans la vérité? Ce grand homme de Dieu au nom d'Élisée, un jour a récit, le général syrien qu'on appelle Naaman, qui était lépreux, il est venu pour chercher la guérison. Et après avoir été guéri, Élisée a aménagé Naaman. Naaman est parti et retourné avec tous ses biens. Dans le cœur de son serviteur, Géasi, quelque chose n'allait pas. Géasi va courir après Naaman pour récupérer une partie des biens. Puis il se présenta à son maître, Élisée lui dit. Élisée lui pose la question, Naaman, d'où viens-tu? Naaman, tu viens d'où? Écoute sa réponse. D'où viens-tu? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni à gauche, ni à droite. Ces gars n'étaient plus vrais. Il dit à Élisée, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Élisée lui dira en rétorquant, mon esprit n'était-il pas avec toi quand tu te rapprochais de Naaman pour récupérer le bien? Il y a aujourd'hui des chrétiens qui vivent, qui respirent les mensonges. Ils vivent dans les mensonges, ils respirent dans les mensonges et c'est un vrai blocage pour la maturité. Il dit, ton serviteur n'est allé ni à gauche ni à droite. Et le Seigneur lui dit, mais mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Écoute la question qu'Élisée, Élie pose à Élisée, Élisée pose à Géasi. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes? Est-ce vraiment le temps là de prendre des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? À côté de Géasi, à côté plutôt d'Élisée, Géasi était appelé à croître. Mais par manque d'être vrai, il a tout raté. La lèpre de Naaman va s'attacher à Géasi. Et c'était sa mise à l'écart. Sa mise même en quarantaine. Parce qu'il n'était pas vrai. Avons-nous encore aujourd'hui des chrétiens qui sont vrais? Avons-nous encore des chrétiens dont le cœur ressemble à ce que leurs bouches disent? Ou faisons-nous face à des hypocrites? Ou faisons-nous face à des personnes qui jouent double jeu? On ne sait pas, tu es dans l'opposition ou tu es dans la majorité présidentielle? C'est l'appel qu'avait lancé Élie à Israël. Israël, jusqu'à quand continueras-tu à marcher des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-les. Si les Baal est Dieu, suivez-les. Où sommes-nous encore des chrétiens qui tâtonnent? Des personnes qui se font appeler chrétiens, mais qui en réalité ne le sont pas. Nous vivons dans une société qui est dominée par les chrétiens. Mais au sein de cette même société, on ne voit pas la chrétienté. Ils sont là partout, dans des entreprises, les chrétiens sont là. Dans tous les services para-étatiques, ils sont là. Les chrétiens sont partout, mais sont-ils des vrais? Ou ils ont fait des make-up? Ce sont des chrétiens cosmétiques. Ils nous donnent l'impression de ceux qui ne sont pas réellement. D'où viens-tu, Géasi? Non, ton serviteur, quelle formule de politesse. On lui demande, d'où viens-tu, Géasi? En répondant, elle dit, ton serviteur. Donc pour dire que je te reste soumitié, mon maître, ton serviteur n'est allé ni à gauche ni à droite, mais dans les mensonges. Ce qu'il dit lui-même est conscient que ce que j'ai dit là, ce n'est pas la vérité. Il en est conscient. Mais na bomba makaka. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont conscients que ce que je fais là, ce n'est pas ce que Dieu fait. Mais na sala kaka. Je n'ai jamais oublié au début de Philadelphie, un papa qui travaillait dans une entreprise de portefeuille, nous a posé la question. Il dit, pasteur, ce qui est au futa, na bureau, mbongo, mais mbongo to senga ki yango te baso futa. Par exemple, to sengi 800, mais mutu anazara kana na 400. Aleli mbongo ezate, asengi siko na sungae. Abinanga, soko sunginga. N'a repéré à ta sang. T'es pas vivant. Non, n'a pas na sungaye. N'a ça la facture à ma bé. C'est quoi ce tout n'abisso? Parce que, et ça ma bé, ce qui n'a sungi, n'a pas zolinga na sungaye wana. Et des fois, les personnes sont déjà elles-mêmes conscientes de leur péché. Elle veut s'appuyer sur d'autres. La conscience, sa conscience lui reprochait déjà. Mais c'est la corruption. C'est la corruption. Et cette personne chrétienne, vivant l'Église, servant l'Église, d'où vient-il? Il y a encore la question à poser à pas mal de personnes. D'où viens-tu souvent? De quel coin, de quelle maison sors-tu souvent? Gehazi dit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Or, ceux qui ne savaient pas qu'il a été déjà dévoilé par Dieu. Là où il y a la maturité, il y a la vérité. Et je crois que ce n'est pas pour rien que ça rime, leur dernière syllabe rime, maturité, vérité. Là où il y a la maturité, il y a la vérité. Là où il y a la maturité, on est appelé à être vrai. Je ne donne pas une fausse apparence de moi. Mais je suis la vraie version de moi-même. Il y a de ceux-là qui nous donnent une bonne apparence ici à l'église, un beau chrétien, bien habillé, parlant en langue, rempli du Saint-Esprit. Mais quand on les regarde en dehors du mur de l'église, une autre personne. Que dire de Akan? Akan qui a caché des choses appartenant à Dieu. Dieu a dit, Jéricho sera voile interdit. Tout doit être consacré à Dieu. Akan regardait les objets précieux. Il a dit, non, il faut que je le récupère. Dieu vient voir Josué pour lui dire, Josué, Israël a péché. Oh, c'est Akan qui avait péché. Mais en voyant Josué, Dieu dit, Israël a péché. Des fois, le péché d'un seul peut ternir l'image de plusieurs. Le péché d'une seule personne peut ternir l'image de plusieurs personnes. Akan a péché. Mais Dieu dit, Israël a péché. Israël n'a pas fait ce que je lui avais demandé de faire. Israël a volé. Josué convoque toute l'assemblée d'Israël et pose la question, qui a pris des choses appartenant à Dieu? Personne ne voulait se dévoiler. Même lui-même, Akan était là, sachant que c'est moi qui ai fait le mal, mais il se cache. Josué a dit, bon ça va, on va procéder le contrôle par famille. On commence à appeler une famille après l'autre. Akan était toujours là, calme. L'auteur du crime, calme. On a commencé par clan, arrivé par tribu, jusqu'à atteindre les familles. Akan était toujours là, calme. Akan n'était pas vrai. On peut le voir très calme, mais c'est lui le coupable. Des fois, il y a des chrétiens, certaines personnes, quand tu regardes son apparence, tu auras l'impression que tu as affaire à un ange. Et pourtant, c'est un démon. Akan était calme, insoupçonnable. Josué a procédé au contrôle. Jusqu'à ce qu'on ait arrivé à la famille, à la tribu plutôt de Akan. Mais Akan, ne pouvais-tu pas te dévoiler en ce moment-là? Akan continue à se cacher. Laisse-moi te dire, tu es là, tu te caches. Dans un département, tu fais n'importe quoi, tu te caches. Tu prétends peut-être que personne ne te voit, Dieu ne te voit, les responsables ne te voient pas. Mais laissez-moi te rappeler. Dieu te voit. Tu es l'auteur du mal, tu te caches. L'auteur de la division, tu te caches. Tu veux diviser les frères entre eux. L'auteur des conflits, tu te caches. Tu fais les comportages des uns auprès des autres, tu te caches. Mais Dieu te voit. sémères des troubles parmi les frères, tu te caches, mais tu te vois. Oh, tu es responsable. Tu as la face d'un agneau. Mais quand tu lui tournes le dos, tu deviens un véritable loup. Josué dira à Acan, Acan, pourquoi troubles-tu Israël? Aujourd'hui, l'Éternel te troublera. Il était là parmi les enfants d'Israël, dans l'assemblée d'Israël, calme. On faisait les contrôles, il était serein, comme s'il ne connaissait rien, comme s'il n'avait pas de problème. Calme. Et il avait fini par être attrapé. La vérité, alors que l'église de Jérusalem connaissait sa croissance, il y a un couple qui n'était pas vrai. Il y a un couple qui ne vivait plus dans la vérité. Ananias et Saphira, acte 5. Ananias et Saphira qui ont vendu leur terrain, et Ananias va s'attendre avec Saphira pour dire, nous irons mentir. Nous allons dire les mensonges à l'église. À l'époque, ceux qui vendaient leur terrain apportaient l'argent auprès des apôtres. Ils faisaient cela partant de l'élan de leur cœur. Ils apportaient l'argent auprès des apôtres. Ananias et Saphira vont s'arranger. Allons dire les mensonges à Dieu. Ils ont fait équipe. L'homme et la femme s'attendent. Ils complotent contre l'Éternel. Allons mentir. Y a-t-il encore des couples pareils? L'homme et la femme se mettent ensemble pour mentir. Tout le bagarre en bon autoteka qui yanguanate. Autre melonde yangototeka qui tout le bagarre bon. Tome maga di mango bongo, di mango soto bito me ma di mi penza ya 5000 dollars les ala madame tête. Me maga ya 1000 dollars. To kanaka boto sala ka bongo. L'homme et la femme n'étaient pas dans la vérité. Les blé dit, mais un homme Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et retint une partie des prix et sa femme les sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan t'il remplit ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs. Ce n'y était vendu, ne resterait-il à toi? Et après qu'il a été vendu, les prix n'était-il pas à ta disposition? Tu pouvais ne pas donner à Acan, plutôt Ananias. Mais pourquoi mentir? Oh, le Dieu de toute grâce, ce jour-là, a ordonné l'exécution de ce couple. L'homme est mort sur le champ. Sa femme viendra, on lui pose la question, elle ment comme son mari. Elle tombe aussi subite. La vérité dans la charité. Aujourd'hui, il y a ces blés qui est victime parce que juste à côté des blés livrés et semés, on ne sait pas faire la différence. Où est passée la vérité? Où est passé le vrai? Où est passé le véritable? Que dire de la charité? La vérité dans la charité. Cette charité, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour en action. Et dans la théologie chrétienne, la charité, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain qui est créature de Dieu. Et dans son écrit, l'apôtre Paul nous dépeint les qualités de cet amour. Et dans la version lui second, on parle de charité en lieu place d'amour comme dans d'autres versions. Il dit, quand je parlerai le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis rien. Pour dire que la crainteté, c'est la charité. La maturité, la vérité et la charité. Il dit même ça, quand j'ai le don de prophétie, le don de parler en langue, quand je distribuerai tous mes biens, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La maturité ne se mesure pas en fonction du nombre de dons spirituels qu'on a ou en fonction des temps passés dans l'église. Mais ça se mesure dans le fruit de l'esprit, le fruit que l'esprit produit en nous, dans le caractère de Christ. Paul poursuit son discours et dit, la charité est patiente. La charité, elle est pleine de bonté. La charité, dit-il, n'est pas envieuse. La charité, poursuit-il, ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. La vérité dans la charité. Dans la charité, il n'y a pas de malhonnêteté. Elle ne fait rien de malhonnête. La charité ne s'enfle point d'orgueil. La charité ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. C'est ça la charité. Y a-t-il encore la charité parmi nous? Entre nous, des chrétiens enviés, jaloux les uns des autres. On dit la charité, elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Et quand nous voyons comment l'apôtre Paul a décrit la charité. Et le même apôtre, quand il atterrit dans Galates 5:22, en parlant de fruits de l'esprit, il commence par l'amour. Il dit le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Et vous allez vous rendre compte que tous les quartiers du fruit de l'amour tournent autour de l'amour. Tous les quartiers du fruit de l'esprit tournent autour de l'amour. Là, l'apôtre Paul a dit que la charité est patiente. Ici, on dit que dans ces fruits-là, il y a aussi la patience. On dit la charité a de la bonté. Et dans le fruit de l'esprit, on voit et l'amour et la bonté. Pour dire que l'élément clé du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Un seul fruit avec toutes ses parties. Il n'y a pas 9 fruits, il n'y a qu'un seul fruit. C'est le fruit que l'Esprit produit en nous. Et Paul dit, professant la vérité dans la charité. Pour dire que le fruit de l'Esprit en question, c'est l'expression du caractère de Christ. La maîtrise de soi, la bonté, la fidélité, la patience. Les fruits englobent tout cela. Et souvent, certains théologiens, en décortiquant le fruit, comme je l'ai dit, tout tourne autour de l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et quand on parle de la paix, la joie plutôt, on dit que la joie, c'est l'expression de l'amour. La paix, c'est la sécurité de l'amour. La patience, c'est le soubassement de l'amour. La bonté, c'est la traduction de l'amour. Et toutes ces choses tournent autour de l'amour. Que Paul appelle chez les Éphésiens ou chez les Corinthiens, charité, l'amour de Dieu. Professant la vérité dans la charité. Je suis vrai en aimant mes frères. Quand je vous aime dans le vrai. Je ne suis pas faux quand je parle de l'amour. Je suis vrai quand je parle de l'amour. C'est ce que Dieu attend de nous. Et toutes ces choses, c'est le caractère de Christ. Sommes-nous de vrais? Y a-t-il encore des femmes samaritaines qui peuvent dire vrai? Ou sommes-nous des faux comme des Ananias, des Saphira, des Achan, voire Géasi? marcher dans la vérité signifie mettre notre vie en conformité avec la parole de Dieu, professant la vérité dans la charité, afin que nous croissions à tous égards. Professant la vérité dans la charité, c'est le caractère de Christ. Tout ce qui est dépeint dans le fruit de l'esprit, nous le voyons en Christ. Et c'est ce que l'Esprit Saint veut produire en nous. Être chrétien, ce n'est pas d'abord le don spirituel, mais premièrement, le fruit de l'esprit. Qu'on sache que tu es vraiment chrétien. Acte 11, 26, à Antioche, pour la toute première fois, quand ils ont vu les disciples, ils ont vu leur manière de faire, leur manière de prier, leur manière de travailler, leur manière de se comporter. Ils ont vu Christ en eux. Et la Bible déclare, c'est Antioche que les disciples firent appeler pour la toute première fois chrétien. Ça veut dire comme Christ. Est-ce que quelqu'un peut s'élever là où il est et dire à Dieu, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Oui, mon sauveur.
Je veux être comme Jésus. Toute ma vie.
Encore, je veux être.
Je veux être comme Jésus. Il est mon Seigneur. Je veux être comme Jésus.
Jésus.
Tout est mal.
Encore je veux être.
Je vais être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus.
Alléluia.
Tout est ma vie. Je vais être comme Jésus. Il est mon sauveur.
Je veux être.
Je vais être comme Jésus.
Alléluia.
Tout est mort.
Je veux être.
Je veux être comme.
J'aimerais que cela soit ta prière ce matin.
Il est mon sauveur.
Je veux être.
Je veux être comme Jésus. Tout est mort.
Oh,
je veux être comme Jésus.
Il est
mon sauveur. Je veux être comme Jésus.
Être comme Jésus quand tu marches là.
Tout
est oh, oh,
oh. Oh, quand il marche là-bas.
Alléluia.
Il
s'humilia.
Il est allé.
À laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison. Je veux être.
Il est mon Seigneur. Je veux vivre comme Jésus. Tout est ma vie.
Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Seigneur, je veux être comme Jésus. Avoir la patience de Christ. Avoir la maîtrise de soi de Christ. Je veux être comme Jésus. Avoir l'amour que Christ avait. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Seigneur, c'est ça notre prière ce matin. Être comme Jésus. Nous comporter comme Jésus. Père, je prie Yahweh pour cette église. Je prie Yahweh pour chacun de nous ce matin. Que nous soyons comme Jésus. Je vois quelqu'un vouloir prendre une décision ce matin. De changer, de tourner la page et d'être comme Jésus. Oui, dis-le à Dieu. Seigneur, ce matin, je décide. Je prends la décision d'être comme Jésus. D'être comme Jésus. L'image que tu as toujours donnée n'est pas celle que tu es réellement. C'est le temps pour toi de prendre un nouveau départ. C'est le temps pour toi d'être vrai. Tu t'es toujours caché, dissimulé dans la foule comme Achan, croyant que même Dieu ne te voit pas. Mais si Dieu te donne ce message ce matin, parce qu'il a besoin de toi. Pierre l'a renié. Même au moment donné, Pierre a posé à Christ la question de savoir, Pierre, Christ a posé à Pierre la question de savoir, Pierre, m'aimes-tu? Christ lui a offert une nouvelle opportunité de repartir à nouveau. Et c'est cette opportunité que Dieu t'offre ce matin. Où tu pourras encore dire, comme les paroles de cette chanson, Nazala Lokolayo, Salete Bomoi Nanga, Nayayo, Ejala Moko, Natatola, Penaye Baete, Obongi. Encore une fois, Nazala Lokolayo. Nazala Lokolayo, Salete. Seigneur, c'est ça notre prière. Nous te demandons de faire à ce que notre vie soit pareille à la tienne. Alléluia. Alléluia. Du fond de ton cœur, dis-le, Seigneur, Nazala Lokola.
Nazala Lokola yo.
Salete.
Salete.
Alléluia.
Pena yemba ye te obongi nalo kumu.
Yabiso lo sambo na tongo alelo nzambe na bomoi. Sala ete bomoi na biso na yayo ezala moko. Sala